Chapitre 4, c'est l'histoire, le récit de Jésus et la femme samaritaine. Alors, récemment, j'ai lu un court témoignage étonnant. Un homme qui s'appelait André, et cet homme dirigeait la plus grande maison close de Londres. Il a été arrêté, il a été envoyé en prison, et il disait, parce qu'il croyait, mais à tort, « Je suis un bon gars, je suis une bonne personne ». Et alors, pendant son séjour en prison, il a décidé un jour d'assister à une étude biblique qui était offerte, pas parce qu'il était intéressé par la Bible, mais parce qu'il servait du café et des bons gâteaux surtout. Et donc il y est allé, et il dit que ce qui l'a vraiment frappé ce jour-là, c'était la joie des détenus qui étaient dans cette étude biblique. Et alors, pendant le premier cantique, il a commencé à pleurer. Et après coup, il a reçu une Bible et il est rentré dans sa cellule, il est reparti à sa cellule. Et alors, il a commencé à lire sa Bible, il est tombé sur le prophète Ézéchiel. Et c'est cette lecture, en fait, qui l'a complètement bouleversé et l'a frappé, comme il dit, comme un coup de foudre. Et il a lu les paroles suivantes qui sont tirées d'Ézéchiel 18. Et je cite, « Si le méchant revient, de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra et ne mourra pas. » Ézéchiel 18, 27 à 28. Alors là, en lisant ça, la parole de Dieu l'a frappé de plein fouet. Il a soudainement réalisé et avoué, et je cite, « Je n'étais en fait pas un bon gars. Je n'étais pas une bonne personne. Au contraire, j'étais méchant et je devais changer. » Il a prié avec le pasteur et cet homme s'est tourné vers Jésus-Christ. Et il dira plus tard, et je le cite, « J'ai trouvé Jésus-Christ et il m'a changé. Il m'a transformé. » Vous voyez, Ézéchiel 18 nous présente un Dieu rempli d'amour pour son peuple rebelle, où Dieu les supplie de se repentir et de se débarrasser de leurs offenses, afin, et c'est ce que le texte dit, afin qu'ils obtiennent un nouveau cœur et un nouvel esprit, le verset 31. Dieu dit encore au verset 32 d'Ézéchiel 18, je cite, « Je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel, convertissez-vous donc et vivez. » Voilà les paroles qui ont aidé André, cet homme, à se repentir et à vivre et à se tourner vers Jésus, parce que Jésus lui-même a appelé les pécheurs à se repentir et venir à lui. Eh bien, ce matin, nous voulons examiner un autre témoignage, le récit d'une histoire incroyable. Alors, ce n'est pas le récit d'un détenu dans une prison, mais celui d'une femme un jour qui rencontre Jésus au bord d'un puits. Et sa vie ne sera jamais la même après la discussion qu'ils ont eue, et ce récit se trouve dans Jean chapitre 4. Alors peut-être avant de rentrer dans le texte, juste quelques mots pour nous rappeler un petit peu le contexte, peut-être vous rappeler du but principal de l'évangile de Jean. Le but principal de Jean est évoqué dans Jean 20, 31, que je cite, « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ, et Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. » Donc Jean nous est en train de dire que son évangile qu'il a écrit avait comme but de convaincre ses lecteurs de la véritable identité de Jésus-Christ comme Messie et comme Fils de Dieu, et que ceux qui croient en lui, qui placent leur foi en lui, puissent avoir la vie éternelle. Eh bien, le récit d'aujourd'hui correspond parfaitement avec le but de l'évangile de Jean, car Jésus va convaincre cette femme qu'il est lui-même le Messie. Cette femme va le croire et sa vie va basculer sur le champ avec des conséquences immédiates et absolument incroyables. Mais alors le texte, on va voir, a aussi un autre côté très pratique, car il nous montre comment Jésus lui-même s'y est pris pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile à quelqu'un. Parce qu'on le voit faire. Et nous pouvons donc glaner des principes applicables à nous sur comment amener quelqu'un au Seigneur. Et donc, ce matin, en parcourant ce récit, j'aimerais proposer 7 principes sur comment conduire une personne à Christ. C'est les principes que nous voyons. Nous voyons ces 7 principes que Jésus utilise pour conduire une personne au Messie. Donc, regardez le verset 1. Excusez-moi. Tac, j'y suis. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retournait en Galilée. Donc, le contexte est simple. Vous rappelez que Jésus était dans la région de Jérusalem. Il avait été baptisé par Jean-Baptiste. Il est de retour à Jérusalem. Il purge le temple. Et en Jean 3, il y a un homme qui s'appelle Nicodème qui vient le voir pour lui demander qu'est-ce qu'il doit faire pour voir le royaume de Dieu. À quoi Jésus lui répond qu'il doit être né de nouveau. Et alors, il explique tout ça dans chapitre 3. Et nous voyons verset 4 que le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Donc, Jésus et ses disciples baptisaient, Jean baptisait, et les pharisiens ont réalisé que le groupe de Jésus en baptisait plus que Jean-Baptiste, et il y avait peut-être une tension qui s'est mise en place. Jésus ne voulait pas attirer trop d'attention sur lui. Il y avait peut-être des conflits parce qu'ils savaient déjà que les pharisiens étaient jaloux des foules qui venaient vers Jean-Baptiste et maintenant vers Jésus. Donc, ils décident tout simplement de partir. Mais c'est intéressant, au verset 2, on apprend que Jésus ne baptisait pas lui-même, c'était ses disciples. Je pense que la raison, c'est parce que Jésus savait que les gens peut-être allaient peut-être créer des clans, sachant qu'ils ont été eux baptisés par Jésus. Donc, Jésus, je pense sagement, comme dans 1 Corinthiens 1, avec toutes les divisions dans l'Église, décide de lui-même ne baptiser personne. Bref, le cas est qu'au verset 3, il décide de quitter la Judée, donc la région où il y a Jérusalem, et il retourne en Galilée. Galilée, c'est le nord de l'Israël, où il y a le lac de Galilée et Capernaüm. Et donc, c'est ce qu'on apprend, d'accord, ici. Et alors, on est maintenant dans le verset 4, et qu'est-ce qu'il dit ? Comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Donc Jésus maintenant va aller de la région qui s'appelle la Judée en Galilée et pour y aller il doit passer par la Samarie. Donc j'aimerais vous montrer ce plan parce que c'est cette carte parce que ça explique très bien comment ça se passe, d'accord ? Donc Jésus est ici dans la Judée, il doit aller en Galilée. Donc il y avait deux manières de le faire. La première, on pouvait traverser le Jourdain et monter ici de l'autre côté du Jourdain ou bien traverser la Samarie, d'accord ? Et donc, c'est ce que Jésus décide de faire selon Jean 4:4. Il va traverser la Samarie. Alors, parlons un petit peu de la Samarie parce que c'est un point très important. Le mot Samarie se réfère tantôt à une région, mais aussi à une ville qui s'appelle Samarie. Il y a une colline d'environ 100 mètres de haut sur laquelle la ville a été bâtie dans l'Ancien Testament, d'accord, dans Rois 16. Elle devient la capitale du royaume du nord d'Israël. Et quand on disait Samarie à l'époque, dans l'Ancien Testament, on parlait de toute la région du nord. À l'époque de Jésus, la région de la Samarie se situait, comme je viens de le montrer, entre la Judée et la Galilée. La Samarie, juste au milieu. Alors le problème, il faut le savoir, c'est qu'il y avait un conflit entre les Juifs et les Samaritains. Un conflit. Lorsque Israël, dans 2 Rois 17, a été déporté en Babylonie, eh bien, le roi des Assyriens a lui envoyé des Assyriens pour se mélanger avec les Juifs à l'époque en Israël. Et ce mélange, ce sont les Samaritains. Ce sont les Samaritains. Et donc, les Juifs considérer les Samaritains comme étant une race mixte et donc inférieure, et cela a créé un immense conflit entre les Samaritains et les Juifs. Les Samaritains donc avaient leur propre centre pour adorer Dieu au mont Garizim, Et les Juifs, eux, avaient leur centre à Jérusalem, où ils adoraient Dieu. Et alors, ce conflit était tel qu'un Juif, lorsqu'il voulait aller ou bien de la Judée en Galilée ou de la Galilée en Judée, eh bien, ne voulait même pas être contaminé par la poussière samaritaine et donc choisissait d'aller de l'autre côté du Jourdain pour contourner la Samarie. Mais certains, ils étaient peut-être pressés, ils avaient d'autres objectifs, eh bien, décidaient de traverser quand même la Samarie. Mais d'habitude, on l'évitait. Mais ici, on apprend au verset 4 que Jésus décide de ne pas aller de l'autre côté du Jourdain, mais décide de traverser la Samarie pour aller de Jérusalem en Galilée. Et une ville, verset 5, il arrivait dans une ville de Samarie nommée Zichar, ou Zichar, d'accord, près du champ de Jacob que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Donc, Zichar est une ville en Samarie qui est près de l'endroit où Jacob avait acheté une terre aux enfants de Hamor dans Genèse 33. Jacob a donné cette terre à Joseph et à ses descendants et quand les Juifs sont revenus d'Égypte, ils ont enterré les os de Joseph dans cette terre à Sichem. Donc, c'est là où Joseph a été enterré. Et donc, voici en deux mots la situation entre les Juifs et les Samaritains. D'accord? Et au verset 5 et 6, il arrive à Zichar, près du champ de Jacob, je viens de le lire, verset 6, là où se trouvait le puits de Jacob. Jésus était fatigué du voyage, était assis au bord d'un puits, c'était environ la sixième heure. Donc on apprend que Jésus et ses disciples traversent la Samarie, ils arrivent à Zichar, ou Zichar, il est fatigué, il y a un puits, donc il s'assied à côté du puits, et c'était environ la sixième heure, donc midi, c'est midi. Alors c'est important de le savoir, parce que midi, c'est le point le plus chaud de toute la journée. Et donc, ils ont beaucoup marché, ils ont faim, et ils ont soif, et là, ils s'assiedent. Et c'est à partir d'ici, ça c'est tout le contexte de ce récit, c'est à partir d'ici que j'aimerais examiner les sept principes sur comment conduire une personne à Christ. D'accord? Alors, le premier principe sur comment conduire une personne à Christ est celui-ci. Numéro 1, il faut être convaincu. Il faut être convaincu. Nous avons tous eu, je pense, nous qui sommes chrétiens, l'occasion d'annoncer l'évangile à quelqu'un. Mais nous avons tous eu d'innombrables situations où nous avons, pour une raison ou une autre, décidé de ne pas annoncer l'évangile à quelqu'un. Peut-être que c'était simplement que l'endroit n'était pas propice, peut-être le moment n'était pas propice, peut-être on a eu peur, peut-être on a eu honte. Il y a des tas de raisons qui feraient qu'on s'est dit, tiens, je devrais, puis ensuite, ah, j'ai pas osé. On l'a tous fait, moi aussi, d'accord? Et je sais pertinemment que toute occasion n'est pas nécessairement la bonne occasion. Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est qu'un chrétien ne va, écoutez bien, un chrétien ne va jamais annoncer l'évangile s'il n'est pas absolument convaincu qu'il devrait le faire. Bien aimé, il faut être convaincu pour oser. Et le verset que j'aimerais vous montrer, c'est le verset 34. Pour commencer, le 34 qui dit ceci, Jésus, plus tard dans la conversation, on verra, dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Waouh! Donc Jésus dit tout simplement que son leitmotiv, son désir le plus profond dans la vie était de faire la volonté de son Père. Pour lui, de faire la volonté de Dieu était plus important que de manger. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas pris le temps pour manger, parce qu'il faut être équilibré dans la vie, mais la chose qui régulait sa vie, c'était la volonté de Dieu. Et une chose qui est clairement la volonté de Dieu, c'est d'annoncer l'évangile. Marc 16, 15 le dit comme ceci, Jésus leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Donc, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes entendent l'évangile, et Jésus était imprégné de ça. C'est pour ça, en fait, qu'il est venu. Bien sûr, il est mort et ressuscité pour nous. Mais ça, c'était son objectif premier. D'accord? C'était sa nourriture de faire la volonté de Dieu. Et voici le premier principe de l'évangélisation. Écoutez, si on n'est pas convaincu, si on n'est pas convaincu que c'est la volonté de Dieu d'annoncer l'évangile, même si je suis nul, peut-être je suis pas bon, je connais pas, je suis pas très bon, mais s'il n'y a pas le désir déjà en nous, si je suis pas convaincu que c'est vraiment la volonté de Dieu, Ben, je le ferai certainement pas. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir de la résistance lorsqu'on annonce l'évangile. Parfois, ça fait mal. Parfois, les gens se tournent contre nous. Parfois, ils nous disent qu'on est fous, des fanatiques religieux. Enfin, il y a plein de trucs qu'ils peuvent dire qui peuvent vraiment faire mal. Donc, on doit être convaincu. Première chose, convaincu. Deuxième chose, il faut initier. Il faut initier. Et ça, on le voit à partir du verset 7. À partir du verset 7. Jésus, on voit au verset 7, regardez, il est dit, verset 6, là, il trouvait un puits de Jacob, d'accord, il était fatigué, il était assis au bord du puits, c'était la sixième heure. Donc, il est là, il a faim, il a soif. Apparemment, il n'a rien pour puiser l'eau lui-même, c'est ce que le verset 11 dit, hein. Elle dit, tu n'as rien pour puiser l'eau. Donc, il n'y a rien, il n'y a pas un seau avec une corde toute prête, c'était juste un puits avec un gros trou, et là, il n'y avait rien pour puiser l'eau. Et, apparemment, il n'y avait personne d'autre présent. Le verset 8 nous dit, regardez, car les disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Donc, verset 7, une femme samaritaine vient puiser l'eau, Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Donc, il est tout seul, au bord de ce puits, sans rien, il avait avec aucun objet pour pouvoir puiser l'eau. Et là, au verset 7, on apprend qu'une femme samaritaine vient puiser l'eau. Alors, d'habitude, c'était les femmes qui venaient en groupe puiser l'eau, et d'habitude, très tôt le matin, ou plutôt tard dans l'après-midi, lorsqu'il faisait moins chaud, parce que vous savez que la chaleur là-bas est très écrasante. Mais là, ce qui est étonnant, c'est que c'est midi, lorsqu'il fait le plus chaud, et une femme toute seule vient puiser l'eau. Pourquoi ? Eh bien, probablement à cause de la honte qu'elle portait à cause de sa situation de débauche sexuelle, qu'on verra plus tard au verset 18. C'était une femme qui était une situation sexuelle vraiment mauvaise. D'un côté, donc, elle évitait d'autres femmes dues à sa honte, mais aussi les autres femmes certainement se gardaient à distance d'elle car elle avait une réputation douteuse. Donc, elle est toute seule. Elle n'est pas dans le groupe. Et là, à midi, elle va au puits pour chercher de l'eau. Donc, elle arrive et là, elle voit Jésus, sans savoir qui c'est, un homme assis sur le bord du puits, puis elle vient puiser l'eau. Et au verset 7, Jésus lui dit tout simplement, donne-moi à boire. Jésus lui demande de rendre un service. Écoute, est-ce que tu peux me donner de l'eau? Alors, petite parenthèse. Une des manières les plus faciles de rencontrer quelqu'un, surtout quand on parle de nos voisins, comment on fait pour rencontrer nos voisins et leur parler du Seigneur? C'est toujours compliqué ça. Écoutez, la meilleure manière, c'est de leur demander de vous rendre un service. Demandez de vous faire rendre un service. Ils seront premièrement tout heureux de vous aider et peut-être dans la discussion, l'occasion d'annoncer l'évangile se présentera. D'accord? Alors, c'est intéressant aussi de noter qu'en grec, la demande est une demande très polie. En français, peut-être ça paraît un peu brut, donne-moi de l'eau. D'accord? Mais en fait, en grec, c'est plutôt pourriez-vous me donner à boire? D'accord? C'est un petit peu l'idée ici. Alors, ce que j'aimerais qu'on note en premier, et ça c'est le point 2, c'est que c'est Jésus qui initie la conversation. Est-ce qu'il avait déjà en tête à cet instant le fait qu'il allait lui annoncer l'évangile? Oui, je pense que oui. Je pense qu'il le savait déjà, il est omniscient, c'est pour ça qu'il était dans Samarie. Donc lui, c'est déjà dans sa tête tout prévu. Mais cette discussion est d'autant plus étonnante quand on considère la culture du temps et les rivalités entre les Juifs et les Samaritains. Jésus est un Juif. Il ne devait pas dialoguer avec une femme qui était une samaritaine. Le verset 27, hein, c'est ce qu'il dira tout à l'heure. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Non seulement il parlait avec une femme, mais il parlait avec une femme samaritaine. Donc là, quelque part, il brise la culture. Un rabbin ne devait pas engager une conversation avec une femme de mauvaise vie. Jésus n'aurait pas dû demander à boire à la femme samaritaine, car le récipient d'eau utilisé aurait été impur, donc le contaminant. Et en fait, même les disciples n'auraient pas dû acheter des aliments touchés par les Samaritains. Donc finalement, la culture a été mise de côté pour cet événement. Alors ce qui est beau à voir ici, c'est que Jésus est allé à la rencontre de cette femme malgré les préjugés des deux parties. Et il s'arrange ici pour être avec elle seule, peut-être parce qu'il se doutait que les disciples réagiraient à l'instant où il adressait la parole à cette femme et ça aurait pu gâcher l'opportunité. Donc, ils partent, MacArthur, il dit, et je cite, « Il ne fait pas de favoritisme, il n'avait pas honte de boire un récipient appartenant à une femme pour laquelle il était venu mourir. » Oui, Jésus est venu mourir pour elle, et donc il n'y avait pas du tout de préjugé ni de favoritisme. Donc voilà, Jésus demande ça au verset 9, regardez, la femme samaritaine lui dit, « Comment toutefois, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Alors, donc, même elle est étonnée que Jésus casse ses traditions, d'accord, et ose lui parler à elle, qui est une femme samaritaine. Donc, on a vu que pour conduire une personne au Seigneur, il faut premièrement être convaincu, et deuxièmement, il faut initier. Vous voyez, un troisième principe ici. Le troisième principe, et ça, je trouve vraiment super, il faut trouver des ponts naturels. Il faut trouver des ponts naturels. Voilà, la question, c'est que quand on commence à parler avec quelqu'un, comment est-ce qu'on fait pour passer de notre discussion à l'évangile? Comment on fait ça? Alors, moi, j'aimerais vous donner un exemple que j'ai essayé une fois, qui était plutôt maladroit, mais j'ai au moins essayé, je vous explique. Il y a des années en arrière, mon épouse et moi, on était en train de skier au Contamine-Montjean, on était dans un télécabine. Il faisait grand beau, et on montait le télécabine, et il y avait une vue splendide de toutes les Alpes autour de nous. Il y avait un homme, un jeune homme, qui était là, et en regardant, en voyant cette vue, il a commencé à... Et il respirait très très fort. Et je lui dis, mais écoutez, monsieur, ça va? Ah ouais, ça va bien. Et il respirait comme ça, très très fort. Je dis, mais est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Il a dit, ouais. Écoutez, c'est tellement magnifique. J'habite à Paris et là, je suis dans les Alpes. C'est absolument génial. C'est super, c'est beau, c'est fantastique. Alors là, il était vraiment complètement dans son truc. Et alors, je me suis dit, tiens, c'est peut-être l'occasion d'y annoncer l'évangile. Alors, comment est-ce que je passe de cet instant-là à l'évangile? Alors, j'ai une idée. Meg en rit chaque fois qu'on en parle, d'accord? Je lui dis, écoutez, c'est vrai que c'est quand même incroyable. Alors ensuite, je lui ai dit, écoutez, monsieur, vous voyez votre chaussure de ski? Je lui regarde bien, je lui dis oui. Je lui dis, monsieur, qui a construit, qui a fabriqué votre chaussure de ski? Il me regarde, il me parle de quoi exactement? Je lui dis, mais non, je suis curieux. Mais qui est le créateur de votre chaussure de ski? Il me dit, je crois, Rossignol, un truc comme ça, le Salomon. Je lui dis, ben écoutez, monsieur, c'est intéressant. C'est évident que cette chaussure de ski qui n'a que 5 boucles ou 3 boucles, qui est plutôt simple, a été créée par quelqu'un. Mais regardez, vous voyez, tout ça autour de nous, monsieur, ça a été créé par un créateur au-dessus. Et ça, c'est infiniment plus complexe que votre chaussure de ski. Alors, il m'a fait une de ses têtes. Alors là, il était bouche bée. Je sais pas s'il a vraiment saisi parce que j'en étais arrivé à la station. Mais j'essayais tant que je pouvais, tant mieux que je pouvais, de faire un pont entre les montagnes et le fait que ces montagnes n'ont pas apparu d'elles-mêmes et qu'il y a un créateur derrière. Et donc, j'ai essayé d'utiliser un objet, sa chaussure de ski, pour le lui montrer. Alors, moi, je pense que c'est une méthode très très bonne, je pense que l'illustration n'est pas top, mais c'était l'intention ici. Bien, Jésus fait pareil, mais bien bien mieux, parce que Jésus, il est Dieu incarné, d'accord? Mais c'est ce qu'il fait. Regardez verset 7, c'est vraiment intéressant. Donc là, verset 7, une femme samaritaine vient puiser l'eau, Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés, d'accord? Et au verset 10, Jésus, maintenant, utilise un langage temporel et un besoin humain, un besoin d'eau pour faire comprendre son besoin spirituel. Verset 10, Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit de moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Donc, Jésus renverse d'un coup la situation. Ce n'est plus lui qui a soif, mais il lui fait entendre que c'est elle qui a soif. Jésus lui dit en somme, tu peux me donner de l'eau à boire tirée du puits, mais si tu savais qui j'étais, c'est toi qui me demanderais à boire et je te donnerais de l'eau vive. Donc Jésus passe de l'eau, il passe de cette eau-là à l'eau spirituelle. Il utilise ce pont pour basculer à l'évangile. Alors il ne sait pas encore, elle ne sait pas encore, elle, que l'eau vive est une manière que Jésus utilise pour décrire la vie éternel. On verra au verset 37 et au chapitre 7, chapitre 7, versets 37 et 39, hein, il est dit ceci. Le dernier jour, le grand jour, hein, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein, comme dit l'Écriture, et il dit cela de l'Esprit. D'accord? De l'Esprit. Donc, il est en train de parler de la vie éternelle ici. Et alors, la femme répond comme ceci au verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Donc, la femme ne saisit pas du tout l'allusion ici. Elle prend l'expression dans son sens littéral. Elle dit, mais t'as voir, le puits est profond. À ses yeux, c'était absurde que Jésus lui offre de l'eau sans avoir de seau. Tout comme Nicodème sur le sujet de la nouvelle naissance, elle ne se rend pas compte que Jésus fait une allusion spirituelle ici. Alors elle dit au verset 12, « Comment peux-tu insinuer me donner de l'eau meilleure que celle du puits de Jacob ?» C'est ce qu'elle dit à Jésus. « Primo, t'as rien pour puiser l'eau, et secondo, c'est le puits de Jacob, et lui a été rassasié par l'eau de ce puits tel qu'il est. » Elle ne réalise pas du tout que Jésus est infiniment plus grand que Jacob, et que son seau à lui, que son eau à lui, donc celle que Jésus offrait, était infiniment plus efficace que celle de Jacob. Alors maintenant, Jésus rentre, et il est beaucoup plus précis au verset 13, regardez ce qu'il dit. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, donc l'eau du puits. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. » Waouh. Donc tu vois, il dit, « Cette eau-là, elle est temporelle, mais l'eau que moi je donne, eh bien, elle jaillit dans la vie éternelle. » Et au verset 15, la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je vienne plus puiser ici. » Waouh, mais écoutez, franchement, la femme elle dit, « Mais c'est trop bien ton truc, Jésus. Tu m'offres une eau absolument géniale. Je bois un verre de ton eau et je n'aurai plus jamais soif, qui veut dire, et là, elle n'a pas encore compris ce que Jésus dit, que je ne vais plus jamais devoir revenir à ce puits au milieu de la journée toute seule pour prendre de l'eau. » Mais ton eau magique me désaltéra un verre d'eau pour le reste de ma vie. Mais attendez, elle n'a rien compris ici, rien. Toutefois, c'est intéressant, elle veut cette eau. Elle veut cette eau. Même si elle n'est pas parfaitement compris la nature de cette eau. Mais elle n'est pas prête à recevoir cette eau. Écoutez bien ce que je vais dire. Elle n'est pas prête à recevoir cette eau car il y a un sujet qui doit absolument être abordé avant que cette femme puisse recevoir cette eau vive. Et ça, c'est une des grandes erreurs qu'on fait lorsqu'on annonce l'évangile. Des fois, on prend par exemple Jean 10:10, d'accord? On prend Jean 10:10 et on dit aux gens comme ceci, on est très tenté à faire ça. Oui, écoute, Jean 10:10, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'il ait en abondance. Viens, Jésus va te donner une vie abondante. Alors les gens disent, ok. Et alors, ils prient une prière pour la vie abondante. C'est ce que Jésus aurait pu faire avec elle. Elle a dit, ouais, donne-moi cette eau, trop bien, je la prends. Non, il dit, c'est pas le moment encore. Parce que t'as pas compris ce qu'il faut comprendre encore. Ah. Alors ça mène au quatrième principe. Il faut être convaincu, il faut initier, il faut trouver des points naturels. Et voici le quatrième, et ça c'est le point que beaucoup de gens n'aiment pas. Il faut aborder le problème du péché. Il faut aborder le problème du péché. Alors là, il y a un changement de sujet dans la discussion qui est totalement abrupt. Jésus et ses femmes sont en train de parler de quoi? D'eau. Parle d'eau. Eau naturelle, eau spirituelle, et toute une conversation. Et tout d'un coup, Jésus change complètement de sujet. Verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Attends. Quoi? Vraiment? Oui. Jésus va droit au but pour aborder le problème de son péché. À un moment donné, c'est ce qu'il faut faire. Obligatoire dans une présentation de l'évangile. N'oublions pas pourquoi Jésus est venu sur terre. Pour, selon Matthieu 1:21, pour sauver son peuple de ses péchés. Voilà le but de l'évangile. Dieu est venu sauver son peuple de ses péchés. Donc son peuple doit être conscient qu'il est pécheur et qu'il a besoin d'être pardonné pour ses péchés, d'être sauvé de ses péchés. Pour pouvoir recevoir la vie éternelle, cette eau vive dont parle Jésus, il faut savoir qu'on est pécheur et s'en repentir. Et donc, cette femme devait confesser le caractère détestable de son péché et recevoir le pardon pour pouvoir recevoir l'eau vive de la vie éternelle. Et voilà l'erreur que beaucoup font dans la présentation de l'évangile. Et c'est ce qu'on apprend dans Matthieu 3:2. Qu'est-ce que Jean-Baptiste et même Jésus faisaient? Bien, Jean-Baptiste, dans Matthieu 3:2, dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Voilà l'évangile, il faut se repentir. Alors, de nouveau, dans Jean 4, au verset 17, la femme répondit « Mais je n'ai point de mari. » Et Jésus lui dit « Tu as raison de dire « Je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, et cela, tu as dit vrai. » Et cela, tu as dit vrai. Voyez-vous, la question de Jésus est formulée justement pour qu'elle confesse son péché. Et son péché est tellement énorme qu'elle l'admet tout simplement au verset 17. « Je n'ai point de mari. » Elle est en train de dire quoi ? « Oui, tu as raison, je n'ai pas de mari. » Enfin, Jésus vient chercher ton mari, mais il sait très bien qu'elle n'a pas son mari, qu'elle n'a pas de mari. Elle dit « Je n'ai pas de mari. » Écoutez, Jésus est omniscient, il sait tout. Lui révèle qu'il savait qu'elle avait été mariée. Regardez ce qui est intéressant. Hein? Je n'ai point de mari, mais Jésus lui dit, oui, tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Je le savais, ça. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela, tu as dit vrai. Écoutez, il sait tout d'elle. Il sait tout d'elle. Il sait qu'elle avait déjà été mariée 5 fois et que l'homme avec qui elle vivait maintenant n'était pas son mari. Jésus était parfaitement au courant de ses péchés. Au verset 19, Jésus lui dit, femme, je vois, elle dit, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Oui, elle confesse son péché, admet la véracité des propos de Jésus à son égard et donc se demande s'il était prophète. Écoutez, le plus haut qu'elle pouvait imaginer que Jésus était prophète, porte-parole de Dieu. Écoutez, la vie de cette femme venait d'être mise à nu, il venait de lui révéler tout son péché, et pourtant, voici la bonne nouvelle, c'est à elle qu'il offre l'eau. On n'est jamais trop mauvais pour recevoir le pardon de Jésus-Christ. Dans Marc 2:17, il a dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs, mais des pécheurs. » Voyez-vous, pour que cette femme puisse être sauvée, il fallait qu'elle reconnaisse son péché. Alors, j'aimerais bien que vous notiez un truc. Souvent, en tant que pasteur, occasionnellement, les gens viennent me voir, me dire, voilà, écoute, John, on vit ensemble, et dans notre cœur, on se croit marié, donc on est marié. Eh bien, ça, c'est vraiment faux, parce qu'au verset 18, Jésus dit, tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Donc, le Seigneur ne considère pas le concubinage comme un mariage. Non, le mariage doit avoir des témoins, quelque chose de public, il y a un engagement clair et net et public pour que ce soit validé comme étant un mariage. Donc, les péchés de ces femmes viennent d'être dévoilés par Jésus. Je pense que ça lui fait mal. Et la prochaine chose qui arrive est aussi assez normale dans les situations d'évangélisation, et ça c'est le 5e point, d'accord ? Il faut... Cinquièmement, anticiper un changement de sujet. Une fois qu'on commence à parler du péché, les gens deviennent super inconfortables. Parce qu'on vient de dévoiler quelque chose en eux, qui va mal. Leur péché. Et les gens n'aiment pas que leur péché soit dévoilé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au verset 20, nos pères, elles changent complètement de sujet, ces dames, elles disent, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Non, mais, elles changent complètement de sujet. Complètement. Elle dit, voilà, pour les Samaritains, le centre religieux est ici, en Samarie, mais pour les Juifs, il est à Jérusalem, qui a raison? Ça n'a rien à voir avec la discussion. Écoutez, ça m'arrive souvent aussi, ça. J'essaie d'annoncer l'évangile à quelqu'un, je leur dis, écoute, tu sais, Jésus veut vraiment pardonner ton péché. Puis là, il sort un truc comme, ouais, mais la Bible, elle dit quoi sur les dinosaures? Puis, les dinosaures, ça n'a rien à voir. Ou bien ils vont dire, puis le pape, t'en penses quoi? Ça n'a rien à voir. Vous voyez, ils veulent changer la discussion parce qu'ils sont mal à l'aise, ils sont inconfortables. Donc, c'est un petit peu ce qui se passe avec elle. D'accord? Donc, elle dit, verset 21, il répond, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni Jérusalem que vous adorez le Père. Écoute, le jour vient où ça, ce sera égal. » Mais ensuite, il répond, au verset 22, « Vous adorez ce que vous connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Et là, il dit clairement, « Non, écoute, le salut vient des Juifs. » Et ce qui est dingue en disant ça, c'est qu'elle ne réalise pas que Jésus lui-même est le Messie qui est venu apporter le salut. Donc elle est en train de dire, écoute, je suis juif, je suis le Messie, et donc le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, dit-il, où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit en vérité. Donc il élargit, il dit, non mais t'en vas. Mais en fait, le lieu n'a rien à voir. Ce qui est important, c'est que tout adorateur adore en esprit la nouvelle naissance, Jean 3, et vérité selon les critères de vérité de la parole de Dieu. Donc c'est n'importe où dans le monde, ça. C'est n'importe où dans le monde. On n'est pas lié à un endroit géographique. Et alors, au verset 25, elle dit, la femme dit, « Je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle le Christ, quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Alors elle dit, ouais, non, mais écoute, oui, Jésus, ce que tu dis, c'est intéressant, mais de toute façon, le Messie viendra un jour et nous révélera toutes ces choses. Alors, ce qu'elle ne sait pas encore jusqu'au prochain verset, regardez ce que Jésus répond au verset 26. Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Je suis le Messie, moi qui te parle. Imaginez ça, en fait, mes amis. Jésus, d'une manière majestueuse, non seulement a répondu à cette déviation de la conversation sur le lieu géographique de l'adoration, mais au bon moment, elle a posé la bonne question. Elle a dit, oui, le Messie nous révélera ces choses. Alors, elle a dit, voilà, l'occasion parfaite pour ramener la conversation sur le Messie. Alors, il avait un petit avantage, il était le Messie. Donc, il a dit, eh oui, tiens, c'est marrant que tu mentionnes le Messie, parce qu'en fait, je suis le Messie. Je suis le Messie. Et ça, c'est le sixième point, le sixième principe sur comment conduire une personne à Christ. Il faut annoncer Jésus-Christ. Il faut annoncer le péché, mais il faut aussi annoncer Jésus-Christ, et c'est ce qu'il fait au verset 26 et le verset 27. Là-dessus, juste à ce moment-là, Jésus lui dit, « Moi qui te parle, je suis le Messie. » Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu ?» ou « De quoi parles-tu avec elle ?» C'est intéressant, vraiment, au bon moment, les disciples reviennent et on a l'impression qu'ils ont entendu cette phrase. Ils ont entendu Jésus articuler le verset 26, « Je le suis, moi qui te parle. » Et leur réaction, c'est ce qu'ils disent. Hein. Ils sont étonnés de ce qu'ils parlent avec cette femme, mais je pense quand ils ont entendu, c'est peut-être la première fois qu'ils entendent Jésus dire « Je suis le Messie », ils disent « On dit rien, c'est quand même le Messie ». Ils avaient déjà vu ces miracles. Là, ils sont en train de vraiment comprendre qui est Jésus. Ce qui est intéressant, je trouve ici, c'est que Jésus vraiment honore cette femme et honore les femmes. Il se révèle à elle, une femme, ici. C'est vraiment super. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans Jean 3, Jésus annonce l'évangile à un homme. Il s'appelle Nicodème, un juif, un homme éduqué, un homme religieux, un homme riche, un membre du Sanhédrin, un chef, un docteur de la loi. Et juste après, dans Jean 4, il annonce l'évangile à une femme, une samaritaine, une femme de mauvaise vie, une femme religieusement confuse, une femme rejetée par son village. Voyez-vous, Jésus est en train de montrer que l'évangile est pour tout le monde ici. Tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et donc, alors on voit déjà, ça c'est les six premiers principes. Un, il faut être, pour annoncer, pour conduire une personne à Christ, il faut être convaincu, il faut initier, il faut trouver les ponts naturels, il faut anticiper un changement, il faut aborder le problème du péché, il faut aborder un changement de sujet, il faut anticiper un changement de sujet, il faut annoncer Jésus-Christ, et septièmement, il faut s'attendre à voir le fruit de la repentance, Et là, c'est incroyable ce qui se passe. Ça va très vite, d'accord, mais je vais lire ces quelques versets. À partir du verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens. Moi, j'ai l'impression qu'elle s'est convertie là, juste avant de partir. Là, elle comprend qui est Jésus, enfin. Elle comprend que Jésus est là pour lui pardonner. Elle comprend qu'elle peut recevoir l'eau vive. Elle reçoit cela par la foi. Et là, elle part en courant dans le village. Elle va en ville, elle dit aux gens, écoutez, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. Alors, elle va dans ce petit village. Un homme m'a tout dit ce que j'ai fait, donc de mal. Donc là, elle confesse son péché. Et on se demande avec combien d'hommes elle a eu des relations. Alors, tous les gens du village, eux, commencent à se dire, aïe, 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 aïe. Donc, ils veulent voir qui est cette personne qui avait tout vu. Voilà, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et donc, verset 30, il sort de la ville et il va vers Jésus. Et pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Alors, c'est une petite leçon pour les disciples, d'accord? Les disciples se disaient donc, les uns les autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc, il est en train de recentrer les disciples sur l'essentiel. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui est déjà blanchissent pour la moisson. Et là, on a l'impression qu'en voyant ces hommes dans leur robe blanche descendre du village, c'est un petit peu comme une moisson. Jésus, il fait un lien avec un champ, il dit, regardez, voilà la moisson, voici ces hommes, ces gens qui arrivent, c'est la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème et l'autre moissonne. Jésus dit, écoutez, tout le monde a un rôle dans les relations. Certains sèment, d'autres moissonnent, mais nous sommes tous ensemble en train de faire ce travail. Je vous les ai envoyés moissonner où vous n'avez pas travaillé, verset 38, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Et alors, juste à ce moment-là, verset 38, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Waouh! Donc, son exemple a fait que d'autres ont aussi confessé leur péché et ont cru en Jésus. Verset 40, ainsi, aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Il resta 2 jours. Donc, il reste 2 jours dans cette ville. Et un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Waouh ! Incroyable ! Et donc, tous ces hommes concluent, tous ces gens dans le village, nous comprenons maintenant qu'il est lui le sauveur du monde. Donc, c'est aller de Jésus à la femme, elle a compris qu'elle était pécheresse et qu'elle avait besoin d'être sauvée. Elle accepte Jésus comme Messie, elle va le raconter aux autres. Tous ces gens croient à cause d'elle, reviennent, rencontrent Jésus, et maintenant ils réalisent que eux croient que Jésus est le sauveur du monde. Et là, mes amis, le 7e point, il faut s'attendre à voir le fruit de la repentance. C'est toutes les caractéristiques d'une conversion. Elle reconnaît son besoin, elle confesse son péché, elle reconnaît Jésus comme Messie, elle ne peut pas se contenir d'annoncer la vérité aux autres. C'est incroyable, absolument incroyable. Et le résultat, eh bien, c'est qu'une grande partie de ce village se convertit à Jésus-Christ. Et ça, c'était justement le but de l'évangile de Jean, de montrer ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Au début de ce message, je vous ai parlé d'un certain André qui dirigeait la plus grande maison close de Londres. Vous vous rappelez? Il a un jour été complètement bouleversé lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ comme son sauveur, comme son Seigneur. La femme samaritaine, c'est exactement pareil. Contexte différent, temps différent, femme, homme, tout était différent. Elle n'était pas en prison, elle était libre. mais sa vie aussi a été complètement bouleversée parce qu'elle a reconnu, comme André, son péché. Elle a reconnu que Jésus est le sauveur du monde, comme tous ces gens de Sychar. La question que nous, on doit se poser, c'est, waouh, comment pouvons-nous participer à cette moisson? Écoutez, il y a des André et il y a des femmes samaritaines tout autour de nous aujourd'hui. Seigneur, que puis-je faire pour moissonner ou récolter? Voilà la leçon pour les disciples. Bien peut-être, je dois peut-être prier ces 7 points. Me dire, voilà, Seigneur, voilà, voici ce que j'aimerais. Je dois être convaincu. Je dois initier. Il faut que je trouve des ponts naturels. Il faut que j'ose aborder le problème du péché. Il faut anticiper des changements de sujet. Il faut que j'annonce Jésus-Christ. Et il faut m'attendre qu'il y ait un fruit radical de la conversion. Que le Seigneur nous aide, pas facile, mais que le Seigneur nous aide dans l'annonce de l'Évangile et vraiment que Dieu te bénisse. Seigneur, merci. Merci pour ce que nous avons appris ce matin. Merci pour ce récit absolument génial. Seigneur, donne-nous un peu plus de courage pour nous, que nous puissions être aussi des gens qui osent témoigner, même si on s'y prend mal, et que nous osions témoigner lorsque l'occasion se présente.